talmudique. Georges Arthur Goldschmidt, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre notre conversation commencée la semaine dernière, dans laquelle nous avions évoqué la question de la complexité de l'identité juive et l'apport original que vous apportez à cette question. Vous m'avez demandé quel était le générique de l'émission et vous pensiez que c'était une musique juive.
Voilà.
Non, c'est Astor Piazzolla et c'est un tango, mais effectivement ça sonne comme une musique klezmer un petit peu. Alors je rappelle que vous êtes écrivain, traducteur, que vous êtes né en Allemagne en 1928. Détail important, car dans vos différents ouvrages, vous revenez souvent sur l'expérience de la dépossession de soi par le langage et vous insistez maintes fois sur la perversion du langage par le crime, comme ce fut le cas de l'allemand domestiqué par le nazisme, corrompu par la LTI, langue du Troisième Reich, LTI signifiant lingua tertii imperii, qui peu à peu changea le sens des mots, en inversa souvent le sens et en imposa l'usage à l'ensemble des citoyens. Et je me demande, et vous avez beaucoup travaillé et écrit sur cette question, quel est le cheminement et le fonctionnement de cette perversion du langage, Georges Arthur Goldschmidt?
L'allemand, contrairement au français, a été fixé assez tard. Les différentes provinces. Aujourd'hui encore, vous avez Astérix en au moins 4 versions allemandes différentes, hein. Le saxon, etc. La langue a été fixée assez tard, beaucoup plus tard que le français. Et le nazisme naît au moment où, après la guerre de 14, tout le monde est d'accord, en gros, sur la langue allemande. Et l'allemand a la faculté d'associer n'importe quoi à n'importe quoi. Il n'y a pas de préposition. Vous pouvez associer bouteille, chaise, ça veut dire quelque chose. Flaschen, ça peut avoir du sens. Il suffit de rapprocher les deux mots. Et les nazis ont, en quelques années, violé fondamentalement la langue allemande qui ne s'en est pas encore totalement relevée par cette faculté de mettre n'importe quoi avec n'importe quoi. Et il n'y a pas de pensée nazie, mais il y a une espèce d'obsession de la destruction. Il fallait d'instinct trouver dans la langue ce qu'on se refusait de dire. C'est-à-dire, vous avez des horreurs. Kinderlandes Verschenkung, l'expédition des enfants à la campagne, une espèce de mot dont l'articulation est déjà perverse. Mais hélas, c'est inexplicable à travers la langue française. La langue française a eu ce bonheur inouï d'emblée de se refuser à certaines choses. Comme par exemple, vous mettez en allemand avec n'importe quoi un verbe, vous faites de la langue absolument ce que vous voulez. Le français, par exemple, refuse de faire un adjectif avec « âme ». « Âme » ne peut pas avoir de qualificatif, c'est extraordinaire. Vous avez des tas de mots comme ça, où le français refuse. La langue française est peuplée de refus. Et l'allemand, vous pouvez tout dire en allemand, c'est ça qui est le redoutable danger. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'endroit secret. Le français suppose que le locuteur est assez intelligent pour comprendre ce que vous voulez dire. Par exemple, l'exemple le plus banal qui existe, entrer et sortir. En allemand, on ne pouvait pas. Il faut que vous disiez si c'est à cheval, en voiture ou en vélo. Hein. On ne pouvait pas dire entrer ni sortir. Et ça commence par là. Vous avez des tas de choses que vous ne pouvez pas généraliser. La marge échappe à la langue. Le grand miracle du français, c'est que chacun fait de la langue ce qu'il veut. En allemand, vous êtes coincé. Vous êtes obligé. C'est tellement précis. La philosophie, qu'est-ce que c'est la philosophie allemande? C'est un assemblage de mots exprimant l'horizontalité, la verticalité, le cube, les volumes. Moi, la philosophie allemande, je la vois. Je la comprends pas, je la vois. Et en français, vous êtes obligé de comprendre. C'est-à-dire que ce sont deux langues qui sont merveilleusement complémentaires et absolument contraires l'une de l'autre. C'est ça qui est extraordinairement. L'allemand n'a pas pu. N'a pas eu le temps de se développer politiquement. Qui est-ce qui a fait le français? C'est à l'époque avant Rabelais. Et ensuite, paradoxalement, les gens qui ont voulu enlever la langue française, tout ce qui était évident. Et la grande trouvaille du français, c'est pas la peine de parler des évidences. D'ailleurs, vous dites en français, ça va de soi. En allemand, on peut pas dire ça. Rien ne va de soi. Il faut que tout soit précisé. C'est-à-dire que vous êtes coincé par la langue. Et les nazis ont utilisé la langue pour coincer les sujets. Il n'y a pas de citoyens en Allemagne. Aujourd'hui, il y a des citoyens, mais il n'y en avait pas à cette époque. Il fallait coincer les sujets pour qu'ils obéissent. Et la langue a été un formidable instrument d'oppression.
Il y a un paradoxe dans ce que vous dites, parce qu'au début, vous dites qu'il y a une liberté absolue de l'allemand de créer tous les mots que l'on veut. Et ensuite, vous dites que l'allemand est une langue qui coince le locuteur.
Vous avez tellement de mots que vous avez toujours plus de mots qu'il ne vous en faut. Vous pouvez faire des millions et des millions de mots avec n'importe quoi. C'est-à-dire, vous avez une telle abondance de vocabulaire que vous êtes coincé par le vocabulaire. Le français manque de mots. C'est exactement le contraire. En français, vous avez plus grande... C'est ça, l'immense difficulté du français. Là aussi, il y a une pudeur linguistique en français et il y a une espèce de manque de pudeur de l'allemand. L'allemand dit tout. Par exemple, vous avez des mots épouvantables. La sexualité, vous n'avez pas de littérature érotique, parce que la langue ne s'y prête pas. Il y a un seul livre érotique que les Allemands refusent, c'est de E.T.R. Hoffmann, Sœur Monica, qui est un chef-d'œuvre absolu. Les Allemands haïssent ce bouquin, n'admettent pas que ce soit E.T.R. Hoffmann. Il n'y a pas de littérature érotique, parce que tout est grossier, si vous voulez. Un seul mot que j'aime bien, le placenta. En allemand, c'est le gâteau de la mer, der Mutterkuchen. C'est-à-dire, c'est des choses d'une vulgarité absolue. Un némophile, c'est un seigneur, un Blutor, quelqu'un. Vous n'avez, au fond, malgré la langue, que des grossièretés involontaires. Hein. Vous êtes obligé de dire les choses crûment. C'est non. Ce qu'on a appelé, il y a un livre extraordinaire qui n'est pas traduit en français, d'un américain, c'est Alan Dundas. A chick like the language is like a children's ladder, comme une échelle pour les poussins, sur l'analité allemande. Hein. Et c'est extraordinairement intéressant. Et ce livre dont j'avais parlé à la précédente émission, de ce Klaus Teveleit, Fantasmagorie, montre à quel point il y a une fixation du vocabulaire. Luther, vous n'avez pas de personnage plus grossier et plus précis sur le plan scatologique que Luther. En français, ça vient à l'idée de personne. C'est une fixation infantile. L'allemand, moi, ce qui m'a stupéfié, quand on s'est mis en tête de me faire préparer le bac, on m'a apporté des textes allemands, une dame qui venait du village, et moi, je me suis mis comme un con à pleurer en voyant ces longs mots. Elle m'a dit, regardez ces mots, vous regardez. Et à ma stupéfaction, je me suis aperçu que ces grands mots philosophiques étaient faits avec le vocabulaire de mon enfance. L'allemand est une langue totalement infantile, qui rejette tout ce qui est étranger. L'allemand vient du latin, comme tout le monde, mais ça ne se voit pas, il ne faut surtout pas que ça sache. L'allemand se croit la langue originelle, d'où cet imbécile de Heidegger, ça, qui mène les Français par le bout du nez, en disant « nous sommes les seuls à parler la langue qui permet de parler de l'être », ce qui est la connerie suprême. Hein. Et l'allemand est une... Alors, j'étais étonné de voir, quand je suis retourné en Allemagne pour la première fois, tous les gens parlaient comme des bébés dans le compartiment. Je ne comprenais pas, mais ils s'expriment comme des bébés. L'allemand est une langue infantile. Et le national-socialisme, c'est le triomphe de l'infantile. C'est le grand problème. L'allemand n'est pas une langue adulte. Alors, il essaye d'être... C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de se développer. Il y a 300 ans de retard. Il y a quelqu'un écrit... Un historien qui s'appelle la nation retardataire, c'est pas par hasard. L'Allemagne a été en retard sur les autres pays par rapport sur le plan de l'évolution politique. Et la politique marque la langue. Et la langue est toujours, aujourd'hui encore, manque. Vous comprenez tout, hein? Il n'y a aucun mot qui pose problème. Tout vous est mis dans le Spiegel par le grand hebdomadaire. Moi, je suis stupéfait des mots très compliqués. Je comprends rien, mais je comprends tout. Ça ne veut rien dire souvent. Hein.
Mais à ce moment-là, la question que je me pose, c'est quelle différence entre la langue allemande qui est parlée par tout le monde, celle de votre enfance par exemple, et puis la langue du nazisme. En quoi le nazisme a apporté une perversion supplémentaire à cette, on pourrait dire, ce retard de la langue, bon, qui pourrait être simplement un fait de langue, mais ce n'est pas une perversion, c'est simplement un fait.
Absolument.
Quelle est la perversion spécifique du nazisme en dehors de ce que vous venez de dire sur cette fixation infantile, anale, dont vous avez parlé, mais ça, c'est déjà avant le nazisme.
Ah, bien avant. Mais l'allemand, en même temps, est une langue d'une admirable simplicité. Eichendorff ou Goethe, c'est des miracles linguistiques. Mais cette langue-là, elle est une espèce de langue idéale que la langue populaire atteint, mais pas la langue officielle. Qui ? Le nazisme a volontairement rendu la langue complexe pour que les gens ne puissent pas s'y opposer. Les mots qui sont des espèces de forteresses inviolables sont faits pour que vous obéissiez. Car vous n'avez pas le temps d'intervenir dans le discours est fermé. L'allemand est une langue merveilleuse comme toutes les langues. Il n'y a pas de langue qui ne soit pas un miracle. Et l'allemand est une langue fantastique, merveilleuse, d'une richesse, comme je le disais, inépuisable. Mais le nazisme a consisté à faire que vous ne pouvez pas interrompre ceux qui parlent. D'ailleurs, la structure, curieusement, de la langue fait que vous ne comprenez une subordonnée que quand vous ne l'entendez plus. L'essentiel arrive à la fin. Maintenant, oui. La langue change. Mais chez Freud, chez tout le monde, vous ne comprenez que quand la phrase est finie. C'est-à-dire, vous êtes obligé de vous taire. Moi, je suis, une fois, c'était encore à Bonn, je suis allé au Parlement pour voir, et il y avait un brave type, rasoir, qui parlait de problèmes agricoles, et personne n'écoutait. Et tout à coup, il s'est mis à faire une longue phrase, et tout le Parlement est devenu d'un absolu silence, car il fallait savoir ce qu'il allait dire à la fin. Et une fois qu'il avait fini, les gens se sont mis à rigoler. Mais il faut absolument, vous ne pouvez pas interrompre quelqu'un. Alors qu'en français, vous interrompez.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'arrêt de la respiration, un double arrêt de la respiration. C'est-à-dire que les mots sont des paquets, c'est un peu l'expression, et puis il faut attendre la fin de la phrase pour savoir de quoi il s'agit. Et ça me fait penser au fait, justement, qu'en hébreu, dans un livre, dans le livre de la Torah par exemple, si deux lettres se touchent, le livre n'est plus lisible parce qu'on dit qu'on ne peut plus respirer entre les lettres. Ah bon. Et donc je sens bien ce que vous dites. Alors donc vous êtes très sensible à cet allemand, je dirais, qui a été perverti par le nazisme, mais votre œuvre, votre vie, Georges Arthur Goldschmidt, ne sont pas restés fixés sur cette situation de l'allemand et de sa contamination par le nazisme. La rencontre avec les livres et la langue française fut votre bouée de secours, la porte d'un tikkun, dit-on en hébreu, d'une réparation. Et j'aimerais lire le petit texte que vous avez mis en exergue de votre livre, Le poing dans la bouche, paru chez Verdier en 2004, que j'aimerais qu'on commente ensuite. Vous écrivez « Certains livres peuvent déterminer et orienter une vie entière, et quand on a eu la chance de les rencontrer, et même de les traduire, le procès en 1974 et le château en 1976, ils se manifestent en vous par le besoin de raconter cette découverte. Celle-ci est précédée de tout un itinéraire qui l'établit et y conduit, et qui, d'une langue à l'autre, permet d'en vivre l'intimité, dramatique pour l'une, détachée et sereine pour l'autre. » Et vous ajoutez, « C'est par la langue française que la langue allemande fut sauvée de sa contamination par le nazisme qui la marqua du crime à tout jamais. De livre en livre et de langue en langue se précise ce qu'on cherche sans jamais le trouver tout à fait jusqu'à la rencontre définitive qui met en place tout ce qui fut parcouru. Ainsi, le point de départ en 43 n'est autre que le point d'arrivée en 1950. Comment certains livres deviennent la matière vive du lecteur pour le reste de la vie, c'est cet itinéraire que ces pages voudraient retracer. Et j'aimerais que vous commentiez cette phrase. De quel livre parlez-vous? En quoi furent-ils si bouleversants, si réparateurs comme le fut la langue française? Et quelle est la particularité du français par rapport à l'allemand contaminé? Bien que vous en ayez déjà un peu parlé, j'aimerais qu'on en approfondisse ces questions. De quel livre parlez-vous, Georges Arthur Goldschmidt?
Je ne me souvenais pas du tout d'avoir écrit ça, mais en effet, je vous remercie de cette lecture précise. Pour moi, il s'agit de deux textes essentiels qui ont fait ma vie. C'est d'abord les Pensées de Pascal, qui a été pour moi une expérience absolument fondamentale. Et ensuite, beaucoup plus tard, c'est vraiment plus tard, j'avais évidemment, au moment du bac, découvert le Zarathoustra de Nietzsche dans une édition allemande, heureusement sans croix gammée. Donc j'ai emporté ça dans ma turne. Et après, on m'a même demandé de le retraduire pour le livre de poche. Et surtout, ça a été le miracle qu'a été la Rose Blanche. C'est ce groupe de jeunes gens, en 1943, Hans et Sophie Scholl, Kurt Huber, ces jeunes gens qui ont distribué des tracts, qui ont sauvé la langue allemande en 1943 qu'ils ont jetés dans l'université et qui ont été guillonnés tous les quatre. Ces textes de la Rose Blanche sont des courts textes où toute la langue allemande, toute la beauté de la langue allemande, toute sa grandeur et sa bonté sont réunies. Ce sont peut-être les plus beaux textes qu'on ait jamais écrits en allemand. Et là, je me suis dit, bon, tout n'est pas perdu. C'est grâce à ça, ce que j'ai d'ailleurs lu en français avant de le lire en allemand, la Rose Blanche, que j'ai découvert que tout n'était pas perdu. C'est ces textes-là qui ont pour moi sauvé la langue allemande.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ces textes? Quel était l'allemand de ces textes?
D'abord, c'est une langue magnifique, et surtout, il revenait à ces jeunes gens sur ce qu'était la vraie culture allemande, qui est culture d'ouverture, etc. Il y a beaucoup de questions de philosophie, mais dans une langue claire, précise et forte. Hein, et ils ont pour montrer à quel point le nazisme est une destruction fondamentale de l'Europe et de l'Allemagne d'abord. Hein. Il fallait le faire en 1943, au sommet du danger. Et ça m'a montré. Et pour moi, de toute façon, je me suis aperçu ensuite, beaucoup plus tard, j'ai écrit, à la demande des éditions du Seuil, mon autobiographie qui s'appelle La traversée des fleuves. Et tout à coup, je me suis trouvé à continuer. Et je me suis aperçu, au bout de 15 jours, mais t'écris en allemand. Je n'avais même pas compris. Les deux langues sont pour moi à ce point naturelles que sans le remarquer. Et j'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais retrouver la langue allemande que par le français. Le français m'a l'espèce de... ce goût du secret qu'a le français, cette espèce de « débrouille-toi, mon bonhomme », m'a fait rire devant la précision abondante de l'allemand. Et les deux langues se complètent admirablement, d'où les permanents contresens que font les braves français dès qu'ils mettent la main sur des choses allemandes. C'est une catastrophe.
Par exemple ?
Ben, ce brave Heidegger, je viens de m'amuser à écrire un petit bouquin qui s'appelle « Heidegger, la langue allemande » pour montrer comment ça se goupille. C'est-à-dire qu'il suffit, comme à la faculté, comme avec un allemand, il se sert beaucoup de ça, il a repéré un mot qui en entraîne beaucoup d'autres. Alors il fait des tas de phrases avec les différents composants de ce mot qu'on ne peut pas voir en français, parce que en français, vous êtes obligé d'employer chaque fois d'autres mots. Donc vous ne voyez rien des procédés totalitaires à l'égard de la langue qu'il emploie en permanence. Hein. Et le grand malentendu philosophique, c'est quand il s'agit de l'Allemagne, de toujours prendre la fausse porte. Rien n'est plus accessible que les deux pays l'un à l'autre. Mais il faut entrer par la bonne entrée. Et un malin génie veut qu'on entre toujours côté pom-pom-pom-pom, côté Wagner, sculpture allemande, c'est très curieux. Il y a un contresens qui est peut-être une nécessité chez l'un et chez l'autre. Hein.
Et par quelle porte il faut rentrer alors?
Ça, je voudrais bien le savoir.
Dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt herein. Der Gipfel des Berges im Abendsonnenschein. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Der Gipfel des Meeres funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste
Nous sommes en train d'entendre deux versions de la Lorelei, Georges Arthur Goldschmidt, un poème de Heine que vous avez évoqué longuement la semaine dernière, mis en musique par Friedrich Silcher. J'ai trouvé plusieurs centaines de versions de cette de cette musique. Et je me disais, beau succès pour un poète inconnu.
Absolument. Oui.
Alors, un texte d'ailleurs traduit dans toutes les langues, ce texte de Lorelai. Et je me suis demandé, que représente pour vous la traduction? Ce miracle du passage entre deux langues, ce miracle auquel vous consacrez, et vous avez consacré l'essentiel de votre temps, vous en avez un peu parlé maintenant, mais c'est quoi pour vous la traduction?
D'abord, en écoutant ces mélodies, j'ai une fois de plus été frappé par l'extrême beauté vocalique de cette langue. L'allemand est une langue musicalement admirable, mais le français aussi. Le français tout autrement, par Debussy, ne pourrait peut-être pas être allemand. Et Bach ne pourrait peut-être pas être français, encore que les musiciens du 7e siècle valent bien. Mais il y a ce miracle vocalique absolu. L'allemand est une langue admirable et constamment maltraitée. Et la traduction consiste... J'étais amené à la traduction sans le vouloir. Mais Christian Bourgois était mon premier éditeur, le tout premier récit que j'ai publié. Et il me voit dans le couloir, il me dit « Oh, Goldschmidt, vous êtes d'origine allemande, il faut traduire quelque chose pour moi. » Vous savez, Christian, ça m'emmerde, la traduction, j'ai jamais fait ça. Venez dans mon... Et il m'a montré « Bienvenue au conseil d'administration de Peter Handke », dont j'avais jamais entendu parler, c'est un texte court. J'allais beaucoup en Allemagne, je faisais traduire ça dans le train. C'est comme ça que... Et je me suis passionné pour cette entreprise impossible qui consiste à peindre en vert une chaise rouge. Tout se traduit et rien ne passe. Le sens peut toujours se traduire. Il n'y a pas de texte intraduisible. Mais son accent, sa chair, son intonation, son corps ne passe pas. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Comment faire pour franchir l'impossible? Et ce qui sauve les langues, c'est ça. C'est à la fois qu'elles sont infranchissables et qu'il faut absolument les traduire. Le miracle de la langue, c'est ça. J'ai écrit un petit bouquin jadis au CNRS qui s'appelle « À l'insu de Babel ». L'essentiel des langues, c'est pas les langues, c'est qu'elles s'opposent à la traduction et qu'elles la sollicitent. Autre paradoxe, les langues, c'est des choses merveilleuses. Et plus il y a de langues, plus l'humanité est sauvée. Le jour où il n'y a plus qu'une seule langue, ce sera Auschwitz, n'est-ce pas ? Généralisé. Il faut absolument qu'il y ait la diversité des langues, c'est indispensable. Et en même temps, qu'il y ait des instruments de communication, comme l'était le latin et le grec jadis. Mais les langues sont des merveilles, des miracles. Le premier à nous avoir signalé ça, c'est Humboldt, le frère de l'explorateur. La diversité des langues humaines. Et il était plein de respect pour les langues, quelles qu'elles soient. Et la traduction... C'est fascinant. Le plus beau moment, je traduis beaucoup moins parce que je suis vieux, j'ai bientôt 89 ans, et ce qui est fascinant à la traduction, c'est quand vous séchez. La langue d'arrivée vous dit « Mon petit vieux, tu te démerdes, mais moi, je ne veux pas. » Vous entendez le français ou l'allemand vous dire « Je ne veux pas. » C'est extraordinaire. Et là, vous êtes en train de lutter. Soit vous arrivez à coincer la langue, alors c'est le miracle, soit généralement, vous n'y arrivez pas. Et c'est extraordinaire. Par exemple, ça va si loin qu'au même moment, à l'insu l'un de nôtre, nous avons traduit mon ami Bernard Lortolari et le procès en même temps sans le savoir. Et la traduction de Bernard est admirable, un absolu chef-d'œuvre. La mienne est tout à fait... Et il n'y a ni chez l'un ni chez l'autre le moindre contresens. Et elles sont absolument irréductibles l'une à l'autre. Et ça, c'est passionnant. On a une fois essayé de faire un dialogue là-dessus, c'est un peu difficile, mais moi j'aurais bien aimé. Pourquoi des traductions du même texte qui sont absolument correctes et justes l'une et l'autre soient totalement différentes? Ça c'est merveilleux. Le jour où il n'y a plus qu'une traduction sera possible, on sera tous morts.
C'est-à-dire que la traduction, d'une certaine manière, révèle la transcendance interne de chaque langue.
Exactement.
C'est-à-dire que ce refus de la possibilité même de traduire révèle l'infinie richesse qu'il y a dans chaque langue.
Absolument, comme vous
dites. Et donc il y aura toujours du reste. Et ce que j'aime bien dans votre œuvre, quelque chose qui revient très souvent, même lorsque vous parlez de votre lecture de la critique de la raison pure, vous parlez du corps. Vous dites, voilà, j'étais comme aspiré, que j'étais à la lettre aspiré par ce prodigieux problème, par ce texte. Vous dites aussi, plus j'avançais, plus je sentais presque corporellement la nécessité de continuer à lire. Et puis vous citez cette phrase que tout le monde connaît, mais qu'il faut rappeler, de Kafka, dit « c'est une véritable prise de corps, un livre qui ne s'inscrit pas dans le corps, qui ne change pas la respiration, ne vaut pas la peine d'être lu ». Et vous rappelez cette phrase de Kafka à Pollack, « d'ailleurs, je crois qu'on ne devrait lire que des livres qui vous mordent et vous piquent. Quand le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur la tête, alors pourquoi le lire ?» Il y a cette formidable importance du corps dans votre œuvre, dans la lecture, et je le sens dans la traduction aussi, Jean-Arthur Goldschmidt.
Je vous remercie beaucoup d'avoir lu ça avec tant d'attention. Et surtout ce que vous avez dit sur l'infini des langues, ça me semble fondamental. S'il n'y avait pas ça, d'abord il n'y aurait pas de langue. La traduction, c'est l'essai justement de retrouver ce qui fait l'essence du linguistique. La linguistique est une farce, mais le linguistique, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a langue, ça c'est la grande merveille. Ça. C'est l'humanité se définit par là. Et en effet, lire un livre qui ne vous change pas, c'est pas la peine de le lire. Il faut que ce soit une agression physique. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tellement de choses. D'un autre côté, si fantastique dans la littérature allemande, parce qu'elle est toujours en prise avec le corps, mais le corps coupable. La littérature française, c'est la conquête amoureuse, c'est le corps aimant, on se fout du corps, on tire un coup. Tandis que chez les Allemands, c'est interdit. Alors il faut se torturer soi-même, le masochisme, il y a un masochisme linguistique aussi. Et la confrontation des deux, pas de la confrontation, le face-à-face, moi j'en connais bien deux langues, c'est tout, c'est extraordinaire. Ça, vous ne cessez pas de vous émerveiller, de vous étonner. Chaque jour, vous apprenez quelque chose de nouveau.
Alors, il y a une jouissance de la traduction. J'ai lu un article récent sur les neurosciences qui disait que parler deux langues, être capable de maîtriser deux langues et de passer de l'une à l'autre, produisait le même plaisir qu'un rapport sexuel. Donc, vous voyez,
tout à fait.
Il y a quelque chose d'une jouissance formidable.
Et surtout quand vous ne pouvez pas traduire.
Voilà.
Quand les deux langues vous disent, comme je vous dis, tu fais ça sans moi, vous entendez vraiment la langue vous le dire. Ça, c'est extraordinaire.
Oui. Alors, vous êtes traducteur de Walter Benjamin, justement, parce que c'est un grand spécialiste de celui qui a réfléchi sur la traduction. Vous avez traduit Peter Handke, Kafka, Nietzsche, Stifter. Vous vivez dans les livres et entre les langues. Et comme vous le dites, d'une langue à l'autre, les assises de soi se fondent et se constituent à travers les aventures littéraires. Cette rencontre avec des personnages, c'est toujours doublé chez vous avec une rencontre avec des personnes. Et pour revenir à cette date inaugurale de vos lectures, autour de 1943, je pense qu'il est peut-être important de terminer sur ce couple, François et Olga Allard, et à toutes ces personnes qui ont risqué leur vie pour sauver d'autres vies, dont vous avez déjà évoqué un petit peu, mais peut-être un mot sur qui ont reçu la médaille des Justes de Yad Vashem.
Ce qui me poursuit constamment, c'est la pensée de ces cinq personnes qui ont risqué leur vie pour un adolescent impossible qui pissait au lit tous les soirs à 16 ans, qui emmerdait tout le monde, un gendarme, une directrice d'internat, deux paysans et un curé, qui ont vraiment risqué leur peau pour me sauver, moi, et mon frère d'ailleurs. Mais toute ma vie, j'ai honte parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard, parce qu'une autre famille a été cachée chez les Allard, et chacun croyait que l'autre s'en occupait. Si bien que les démarches pour qu'ils soient parmi les justes, ça a été fait très tardivement, et seuls leurs enfants, eux, sont morts avant. Mais c'est des gens pour qui j'ai une infinie reconnaissance, et qui m'ont accueilli, et ils habitaient à 500 mètres de la commandant en tour, où d'ailleurs il y avait deux malheureux troufions allemands, et ils m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Une espèce de générosité, de grâce qui m'a marqué pour toujours. Et je suis très heureux que leurs deux filles soient encore de ce monde.
Et si on se souvient que le mot juif par lequel nous avons commencé l'émission la semaine dernière signifie en hébreu avoir de la gratitude pour Yehudi. Ah oui. Yehudi, juif, veut dire le hodot, remercie, avoir de la gratitude. Je crois qu'on termine sur une question de ce judaïsme que nous avons évoqué.
C'est prodigieux. J'ignorais ça totalement, ce qui prouve à quel point il est grave d'ignorer la culture des origines, si je puis dire. Mais c'est fantastique. Ça explique tout. Et c'est merveilleux. La reconnaissance d'exister. Et on comprend pourquoi il y a de l'antisémitisme. Hein. On ne pardonne pas. C'est la reconnaissance, c'est un miracle. Moi, tous les jours, je m'étonne d'exister. C'est un miracle. Vivre est le miracle suprême. Hein. Et chaque vie est un cadeau merveilleux. C'est magnifique. Yehudi, gratitude, incroyable. Ouais.
Merci Georges Arthur Goldschmidt pour ces deux semaines passées en votre compagnie nous a donné envie non seulement de vous lire, mais de retourner à nos bibliothèques pour nous plonger dans les délices de la littérature. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Un destin, paru aux éditions de l'Éclat. On lira aussi Le point dans la bouche que j'ai cité, qui est paru chez Verdier en 2004, et vos traductions. Et si vous aviez un livre de votre œuvre que vous aimeriez recommander aux auditeurs...
C'est Le procès de Kafka.
Le procès de Kafka.
Mes livres, il y en a tellement d'autres. Hein. Mais Le procès de Kafka, sûrement, qui est le livre majeur.
Merci encore, ce fut un grand plaisir et je vous dis profondément un grand honneur.
Et je vous remercie surtout de m'avoir invité. J'ai passé deux très belles semaines.
On peut remercier aussi Françoise-Anne Ménager qui a insisté, qui vous a lu et qui a insisté pour qu'on vous accueille et j'en suis très 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 heureux. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin préparée avec Françoise-Anne Ménager à la prise de son. Notre ami Philippe Palares à la réalisation, comme toujours, la talentueuse Dany Journeau. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.